voici pour tes 7 ans, Marjolaine, un livre extraordinaire. Un livre écrit par un âne. J'espère que tu le comprendras puisque tu as l'âge de raison maintenant.
Les mémoires d'un âne par la comtesse de Ségur, S-E accent aigu G-U-R. Librairie Hachette, Nouvelle Bibliothèque Rose, 1960. Première cassette, première face. Préface par Cadichon, âne savant. Tu verras dans ce livre comment moi, pauvre âne, et mes amis âne, ânons et ânesses, nous avons été et nous sommes injustement traités par les hommes. Tu verras que nous avons beaucoup d'esprit et beaucoup d'excellentes qualités. Tu verras aussi comme j'ai été méchant dans ma jeunesse, combien j'en ai été puni et malheureux, et comme le repentir m'a changé et m'a rendu l'amitié de mes camarades et de mes maîtres. Tu verras enfin que lorsqu'on aura lu ce livre, au lieu de dire « bête comme un âne », ignorant comme un âne, têtu comme un âne, on dira de l'esprit comme un âne, savant comme un âne, docile comme un âne, et que toi et tes parents, tu seras fier de ces éloges. Je souhaite que tu ne ressembles pas à ce que j'ai été pendant la première moitié de ma vie. Chapitre 1er, le marché. Je ne me souviens pas de mon enfance. Je fus probablement malheureux comme tous les ânons, joli, gracieux comme nous le sommes tous. Très certainement, je fus plein d'esprit, puisque tout vieux que je suis, j'en ai encore plus que mes camarades. J'ai attrapé plus d'une fois mes pauvres maîtres qui n'étaient que des hommes, et qui, par conséquent, ne pouvait pas avoir l'intelligence d'un âne. Je vais commencer par te raconter un des tours que je leur ai joué dans le temps de mon enfance. Les hommes n'étant pas tenus de savoir tout ce que savent les ânes, vous ignorez sans doute, vous qui lisez ce livre, ce qui est connu de tous les ânes, mes amis, c'est que tous les mardis, il y a dans la ville de L'Aigle, L-A-I-G-L-E, un marché où l'on vend des légumes, du beurre, des œufs, du fromage, des fruits et autres choses excellentes. Ce mardi est un jour de supplice pour mes pauvres confrères. Il l'était pour moi aussi avant que je fusse acheté par ma bonne vieille maîtresse, votre grand-mère, chez laquelle je vis maintenant. J'appartenais à une fermière exigeante et méchante. Figure-toi, mon cher petit maître, qu'elle poussait la malice jusqu'à ramasser tous les œufs que pondaient ses poules, tout le beurre et les fromages que lui donnait le lait de ses vaches, tous les légumes et les fruits qui mûrissaient dans la semaine, pour remplir des paniers qu'elle mettait sur mon dos. Et quand j'étais si chargé que je pouvais à peine avancer, cette méchante femme s'asseyait encore au-dessus des paniers et m'obligeait à trotter ainsi écrasé, accablé, jusqu'au marché de L'Aigle, qui était à 1 lieue, c'est-à-dire à 4 kilomètres de la ferme. J'étais toutes les fois dans une colère que je n'osais pas montrer, parce que j'avais peur des coups de bâton. Ma maîtresse en avait un très gros, plein de nœuds, qui me faisait vraiment mal quand elle me battait. Chaque fois que je voyais, que j'entendais les préparatifs du marché, je soupirais. Je gémissais, je braillais même, dans l'espoir d'attendir mes maîtres.
« Allons, grand paresseux, me disait-on en venant me chercher, vas-tu te taire et ne pas nous assourdir avec ta vilaine grosse voix ? Ian, Ian, voilà-tu une belle musique que tu nous fais ? Jules, mon garçon, approche ce fainéant près de la porte que ta mère lui mette sa charge sur le dos. Là, un panier d'œufs, encore un. et les fromages, et le beurre, et les légumes maintenant. Ah, c'est bon. Voilà une bonne charge qui va nous donner quelques bons billets de 100 francs. Mariette, ma fille, apporte une chaise que ta mère monte dessus. Très bien. Allons. Bon voyage, ma femme. Et fais marcher ce fainéant de bourri.
Un bourri, c'est un arbre.
Tiens, voilà ton gourdin. Tape dessus. C'est bien. Encore quelques caresses de ce genre et il marchera.
Le bâton ne cessait de me frotter les reins, les jambes, le cou. Je trottais, je galopais presque. La fermière me battait toujours. Je fus indigné de tant d'injustice et de cruauté. J'essayai de ruer pour jeter ma maîtresse par terre, mais j'étais trop chargé. Je ne pus que sautiller et me secouer de droite et de gauche. J'eus pourtant le plaisir de la sentir dégringoler.
Méchante âme, saut animal, entêté, je vais te corriger et te donner du Martin bâton.
En effet, elle me battit tellement que j'eus peine à marcher jusqu'à la ville. Nous arrivâmes enfin. On ôta de dessus mon pauvre dos écorché tous les paniers pour les poser à terre. Ma maîtresse, après m'avoir attaché un poteau, alla déjeuner abondamment. Et moi qui mourais de faim et de soif, on ne m'offrit pas seulement un brin d'herbe, une goutte d'eau. Je trouvai moyen de m'approcher des légumes pendant l'absence de la fermière et je me rafraîchis la langue en me remplissant l'estomac avec un panier de salade et de choux. De ma vie, je n'en avais mangé d'aussi bon. Je finissais le dernier chou et la dernière salade lorsque ma maîtresse revint. Elle poussa un cri en voyant son panier vide et je la regardai d'un air insolent et si satisfait qu'elle devina le crime que j'avais commis. Je ne vous répéterai pas les injures dont elle m'accabla. Elle avait très mauvais ton et lorsqu'elle était en colère, elle jurait et disait des choses qui me faisaient rougir tout homme que je suis. Après donc m'avoir tenu les propos les plus humiliants, auquel je ne répondais qu'en me léchant les lèvres et en lui tournant le dos, elle prit son bâton et se mit à me battre si cruellement que je finis par perdre patience et que je lui lançai trois ruades, dont la première lui cassa le nez et trois dents, la seconde lui brisa le poignet et la troisième l'attrapa à l'estomac et la jeta par terre, boum badaboum. 20 personnes se précipitèrent sur moi en m'accablant de coups et d'injures. On emporta ma maîtresse, je ne sais où, et l'on me laissa attacher au poteau près duquel étaient étalées les marchandises que j'avais apportées. J'y restai longtemps. Voyant que personne ne songeait à moi, je mangeai un second panier plein d'excellents légumes. Je coupai avec mes dents la corde qui me retenait et je repris tout doucement le chemin de ma ferme. Les gens que je dépassais sur la route s'étonnaient de me voir tout seul.
Tiens, ce bourri avec sa longe cassée, il s'est échappé, disait l'un. Alors, c'est un échappé des galères, dit l'autre, et tous se mirent à rire. Il ne porte pas une porte-charge sur son dos, reprit le troisième. Bien sûr, il a fait un mauvais coup, s'écria un quatrième.
Attrape-le donc, mon homme. Nous mettrons le petit sur son bas, dit une femme.
Bon, il te portera bien avec le petit gars, répondit le mari.
Moi, voulant donner bonne opinion de ma douceur et de ma complaisance, je m'approchai tout doucement de la paysanne et je m'arrêtai près d'elle pour la laisser monter sur mon dos.
« Il n'a pas l'air méchant, ce bourri, dit l'homme, en aidant sa femme à se placer sur le bas. »
Je souris de pitié en entendant ses propos. « Méchant !» Comme si un âne doucement traité était jamais méchant. nous ne devenons colère, désobéissant et entêté que pour nous venger des coups et des injures que nous recevons. Quand on nous traite bien, nous sommes bons, bien meilleurs que les autres animaux. Je ramenai à leur maison la jeune femme et son petit garçon, joli petit enfant de 2 ans qui me caressait, qui me trouvait charmant et qui aurait bien voulu me garder. Mais je réfléchis que ce ne serait pas honnête. Mes maîtres m'avaient acheté, je leur appartenais. J'avais déjà brisé le nez, les dents, le poignet et l'estomac de ma maîtresse, j'étais assez vengé. Voyant donc que la maman allait céder à son petit garçon qu'elle gâtait, je m'en étais bien aperçu pendant que je le portais sur mon dos, je fis un saut de côté et avant que la maman eût pu ressaisir ma bride, je me sauvai en galopant et je revins à la maison. Mariette, la fille de mon maître, me vit la première.
Ah, voilà Cadichon, comme le voilà revenu de bonne heure. Jules, viens lui ôter son bas.
Méchante âne, dit Jules, d'un ton bourru, il faut toujours s'occuper de lui. Pourquoi donc est-il revenu seul? Je parie qu'il s'est échappé. Vilaine bête, ajouta-t-il en me donnant un coup de pied dans les jambes. Si je savais que tu t'es sauvé, je te donnerais 100 coups de bâton.
Mon bas et ma bride étant ôtés, je m'éloignai en galopant. À peine étais-je rentré de l'herbage que j'entendis des cris qui venaient de la ferme. Je m'approchai de la haie et je vis qu'on avait ramené la fermière. C'étaient les enfants qui poussaient ces cris. J'écoutai de toutes mes oreilles et j'entendis Jules dire à son père « Mon père, je vais prendre le grand fouet du charretier, j'attacherai l'âne à un arbre et je le battrai jusqu'à ce qu'il tombe par terre. »
« Va, mon garçon, va, dit le père, mais ne le tue pas, nous perdrions l'argent qu'il nous a coûté. Je le vendrai à la prochaine fois. »
Je restai tremblant de frayeur en les entendant et en voyant Jules courir à l'écurie pour chercher le fouet. Il n'y avait pas à hésiter, et sans me faire scrupule cette fois de faire perdre à mes maîtres le prix qu'ils m'avaient payé, je courus vers la haie qui me séparait des champs. Je m'élançai dessus avec une telle force que je brisai les branches et que je pus passer au travers. Je courus dans le champ et continuai à courir longtemps, bien longtemps, croyant toujours être poursuivi. Enfin, n'en pouvant plus, je m'arrêtai, j'écoutai, je n'entendis rien. Je montai sur une butte, je ne vis personne. Alors je commençai à respirer et à me réjouir de m'être délivré de ces méchants fermiers. Mais je me demandais ce que j'allais devenir. Si je restais dans le pays, on me reconnaîtrait, on me rattraperait et l'on me ramènerait à mes maîtres. Que faire? Où aller? Je regardais autour de moi. Je me trouvais isolé et malheureux et j'allais verser des larmes sur ma triste position lorsque je m'aperçus que j'étais au bord d'un bois magnifique. C'était la forêt de Saint-Évroult, E-V-R-O-U-L-T. Quel bonheur, m'écriai-je, je trouverai dans cette forêt de l'herbe tendre, de l'eau, de la mousse fraîche, j'y demeurerai pendant quelques jours, puis j'irai dans une autre forêt, plus loin, bien plus loin de la ferme de mes maîtres. J'entrai dans le bois. Je mangeai avec bonheur de l'herbe tendre et je bus l'eau d'une belle fontaine. Comme il commençait à faire nuit, je me couchai sur la mousse au pied d'un vieux sapin et je m'endormis paisiblement jusqu'au lendemain. Chapitre 2. La poursuite. Le lendemain, après avoir mangé et bu, je songeai à mon bonheur. Me voici sauvé, pensais-je. Jamais on ne me retrouvera, et dans 2 jours, quand je serai bien reposé, j'irai plus loin encore. À peine avais-je fini cette réflexion que j'entendis l'aboiement lointain d'un chien, ouh, ouh, puis d'un second, ouh, ouh. Quelques instants après, je distinguai les hurlements de toute une meute. Inquiet, un peu effrayé même, je me levai et me dirigeai vers un petit ruisseau que j'avais remarqué le matin. À peine y étais-je entré que j'entendis la voix de Jules parlant aux chiens.
« Allons, allons, mes chiens, cherchez bien, trouvez-moi ce misérable âne, mordez-le, déchirez-lui les jambes et ramenez-le-moi, que j'essaye mon fouet sur son dos. »
La frayeur manqua de me faire tomber, mais je réfléchis aussitôt qu'en marchant dans l'eau, les chiens ne pourraient plus sentir la trace de mes pas. Je me mis donc à courir dans le ruisseau qui était heureusement bordé des deux côtés de buissons très épais. Je marchais pendant ma restée, pendant fort longtemps. Les aboiements des chiens s'éloignaient ainsi que la voix du méchant vieux.
Ouh, 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 ouh,
ouh, ouh, ouh, ouh. Je finis par ne plus rien entendre. Haletant, épuisé, je m'arrêtai un instant pour boire. Je mangeai quelques feuilles des buissons. Mes jambes étaient raides de froid, mais je n'osais pas sortir de l'eau. J'avais peur que les chiens ne vinssent jusque-là et ne sentissent l'odeur de mes pas. Quand je fus un peu reposé, je recommençai à courir, suivant toujours le ruisseau jusqu'à ce que je fusse sorti de la forêt. Je me trouvais alors dans une grande prairie où se trouvaient plus de 52. Je me couchai au soleil dans un coin de l'herbage. Les bœufs ne faisaient aucune attention à moi, de sorte que je pus manger et me reposer à l'aise. Vers le soir, deux hommes entrèrent dans la prairie.
Frère, dit le plus grand des deux, si nous rentrions les bœufs cette nuit, on dit qu'il y a des loups dans le bois.
Des loups? Qui est-ce qui t'a dit cette bêtise?
Des gens de l'Aigle. On raconte que l'âme de la ferme des haies a été emportée et dévorée dans la forêt.
Bah, laisse donc. Ils sont si méchants, les gens de cette ferme, qu'ils auront fait mourir leur âne à force de coups.
Et pourquoi donc qui dirait que le loup l'a mangé?
Pour qu'on ne sache pas qu'ils l'ont tué.
Tout de même, vaudrait mieux rentrer nos bœufs.
Et comme tu voudras, frère, je ne tiens ni à oui ni à non.
Je ne bougeais pas dans mon coin, tant j'avais peur qu'on ne me vît. L'herbe était haute et me cachait fort heureusement. Les bœufs ne se trouvaient pas du côté où j'étais étendu. On les fit marcher vers la barrière et puis à la ferme où demeurait leur maître. Je n'avais pas peur du loup parce que l'âne dont on parlait, c'était moi-même et que je n'avais pas vu la queue d'un loup dans la forêt où j'avais passé la nuit. Je dormis donc à merveille et je finissais mon déjeuner quand les bœufs rentrèrent dans la prairie. Deux gros chiens les menaient.
Mmh.
Je les regardais tranquillement lorsqu'un des chiens m'aperçut, aboya d'un air menaçant et courut vers moi. Son compagnon le suivit. Que devenir? Comment leur échapper? Je m'élançai sur les palissades qui entouraient la prairie. Le ruisseau que j'avais suivi la traversait. Je fus assez heureux pour sauter par-dessus. Et j'entendis la voix d'un des hommes de la veille qui rappelait ses chiens.
« Ici, Médor, ici, ici, Faro, ici, au pied !»
Je continuai mon chemin tout doucement et je marchai jusqu'à une autre forêt dont j'ignore le nom. Je devais être à plus de 10 lieues, 40 kilomètres, de la ferme des haies. J'étais donc sauvé. Personne ne me connaissait et je pouvais me montrer sans crainte d'être ramené chez mes anciens maîtres. Chapitre 3. Les nouveaux maîtres. Je vécus tranquillement un mois dans cette forêt. Je m'ennuyais bien un peu quelquefois, mais je préférais encore vivre seul que vivre malheureux. J'étais donc à moitié heureux lorsque je m'aperçus que l'herbe diminuait et devenait dure. Les feuilles tombaient, l'eau était glacée, la terre était humide. Hélas, hélas, pensais-je, que devenir? Si je reste ici, je périrai de froid, de faim, de soif. C'est l'hiver qui vient. Mais où aller? Qui est-ce qui voudra de moi? À force de réfléchir, j'imaginais un moyen de trouver un abri. Je sortis de la forêt et j'allai dans un petit village tout près de là. Je vis une petite maison isolée et bien propre. Une bonne femme était assise à la porte, elle filait. Je fus touché de son air de bonté et de tristesse. Je m'approchai d'elle et je mis ma tête sur son épaule. La bonne femme poussa un cri, se leva précipitamment de dessus sa chaise et parut effrayée. Je ne bougeai pas. Je la regardai d'un air doux et suppliant.
« Pauvre bête, dit-elle enfin, tu n'as pas l'air méchant. Si tu n'appartiens à personne, je serais bien contente de t'avoir pour remplacer mon pauvre vieux grison mort de vieillesse. Je pourrais continuer à gagner ma vie en vendant mes légumes au marché. Mais tu as sans doute un maître, ajouta-t-elle en soupirant.
À qui parlez-vous, grand-mère?
Dit une voix douce qui venait de l'intérieur de la maison.
Je cause avec un âne qui est venu me mettre la tête sur l'épaule et qui me regarde d'un air si doux que je n'ai pas le cœur de le chasser.
Voyons, voyons,
reprit la petite voix. Et aussitôt, je vis sur le seuil de la porte un beau petit garçon de 6 à 7 ans. Il était pauvrement, mais proprement vêtu. Il me regarda d'un œil curieux et un peu craintif.
« Puis-je le caresser, grand-mère ? »
dit-il.
« Certainement, mon Georges, mais prends garde qu'il ne te morde. »
Le petit garçon allongea son bras, et ne pouvant m'atteindre, il avança un pied, puis l'autre, et put me caresser le dos. Je ne bougeais pas de peur de l'effrayer. Seulement, je tournai ma tête vers lui et je passai ma langue sur sa main.
« Grand-mère, grand-mère, comme il a l'air beau, ce pauvre homme! Il m'a léché la main !»«
C'est singulier qu'il soit tout seul. Où est son maître? Va donc, Georges, par le village et à l'auberge où s'arrêtent les voyageurs. Tu demanderas à qui appartient ce bourri. Son maître est peut-être en peine de lui. »
Fais jamais le bourri, grand-mère!
Il ne te suivrait pas. Laisse-le aller où il voudra.
Georges partit en courant. Je trottai après lui. Quand il vit que je le suivais, il vint à moi et me caressant, il me dit
« Dis-toi, mon petit bourri, puisque tu me suis, tu me laisseras bien monter sur ton dos. »
Et sautant sur mon dos, il me fit
« Hu, hu !»
Je partis au petit galop, ce qui enchanta Georges. « Oh, oh !» fit-il en passant devant l'auberge. Je m'arrêtai tout de suite. Georges sauta à terre, je restai devant la porte, ne bougeant pas plus que si j'avais été attaché.
« Qu'est-ce que tu veux, mon garçon ?» dit le maître de l'auberge.
« J'aime bien savoir, monsieur Duval, si ce bourri qui est à la porte ne serait pas à vous ou à un de vos clients. »
Monsieur Duval s'avança vers la porte, me regarda attentivement.
« Non, ce n'est pas à moi, ni à personne que je connaisse, mon garçon. Va chercher plus loin. »
Georges remonta sur mon dos. Je repartis au galop. Et nous marchâmes, demandant de porte en porte à qui j'appartenais. Personne ne me reconnaissait, et nous revînmes chez la bonne grand-mère qui filait toujours, assise devant sa maison.
« Grand-mère, le bourri n'appartient à personne du pays. Qu'allons-nous en faire? Il ne veut pas me quitter et il se sauve quand quelqu'un veut le toucher. »
En ce cas, mon Georges, il ne faut pas le laisser passer la nuit dehors. Il pourrait lui arriver malheur. Va le mener à l'écurie de notre pauvre grison et donne-lui une botte de foin et un seau d'eau. Nous verrons demain à le mener au marché. Peut-être retrouverons-nous son maître.
Et si nous ne le retrouvons pas, grand-mère?
Nous le garderons jusqu'à ce qu'on le réclame. Nous ne pouvons pas laisser cette pauvre bête périr de froid pendant l'hiver, ou bien tomber aux mains de méchants garnements qui la battraient et la feraient mourir de fatigue et de misère.
Georget me donna à boire et à manger, me caressa et sortit. Je lui entendis dire en fermant la porte,
« Oh, que je voudrais qu'il n'eût pas de maître et qu'il restât chez nous !»
Le lendemain, Georget me mit un licou après m'avoir fait déjeuner. Il m'amena devant la porte, la grand-mère me mit sur le dos un bas très léger et s'assit dessus. Georget lui apporta un petit panier de légumes qu'elle mit sur ses genoux et nous partîmes pour le marché de la ville de Mamère, M-A-M-E-R-S. La bonne femme vendit bien ses légumes, personne ne me reconnut et je revins avec mes nouveaux maîtres. Je vécus chez eux pendant 4 ans. J'étais heureux, je ne faisais de mal à personne, je faisais bien mon service. J'aimais mon petit maître qui ne me battait jamais, on ne me fatiguait pas trop, on me nourrissait assez bien. D'ailleurs, je ne suis pas gourmand. L'été, des épluchures de légumes, des herbes dont ne veulent pas les chevaux ni les vaches, l'hiver, du foin et des épluchures de pommes de terre, de carottes, de navets. Voilà ce qui nous suffit à nous autres âmes. Il y avait pourtant des journées que je n'aimais pas. C'était celle où ma maîtresse me louait à des enfants du voisinage. Elle n'était pas riche, et les jours où je n'avais pas à travailler, elle était bien aise de gagner quelque chose en me louant aux enfants du château voisin. Ils n'étaient pas toujours bons. Voici ce qui m'arriva un jour dans une de ces promenades. Fin de la première phase de la première cassette, page 20, Les mémoires d'un âne, par la comtesse de Ségur.